Alors, je vous ai amené quelques petites activités de mon travail pour essayer de vous faire trouver dans quel domaine j'exerce et puis quel est mon métier. Est-ce que ça vous parle, tout ça? Dites-moi, hein.
Non.
Vous pouvez dire, hein, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Hein. Peut-être ça? Ça vous parle un peu?
Méso-échelle,
ça veut dire moyenne échelle. Ça veut dire de l'ordre d'une millier de kilomètres, à peu près. Mais regardez là, ça vous parle quand même.
Oui, ah oui.
Alors, c'est quel domaine?
La météo.
Oui, c'est ça. Alors, je travaille au laboratoire de météorologie physique. C'est un petit laboratoire de recherche qui est situé au CESO, là, juste à côté. Alors, dans les laboratoires, on fait de la recherche et aussi de l'enseignement. Et le laboratoire est rattaché à l'Observatoire de physique du globe de Clermont-Ferrand. Est-ce que vous connaissez ça? L'Observatoire, au PGC. Non? Vous êtes allé au sommet du Puy-de-Dôme?
Oui.
Qu'est-ce qu'il y a au sommet du Puy-de-Dôme?
Le truc blanc.
Dis-moi. Une antenne. Alors ça, oui, une antenne, certes. Devant l'antenne, qu'est-ce qu'il y a d'autre?
Le grand truc blanc, c'est ça?
Alors là, c'est le temple. Oui, entre l'antenne et le temple, il reste une petite chose. C'est celle-ci qui m'intéresse. Vous vous rappelez pas? Un chalet en bois. Un gros chalet en bois avec une plateforme, avec des instruments. Ça vous parle? Donc ça, c'est l'Observatoire de physique du globe de Clermont-Ferrand. C'est un des sites instrumentés. Il y a une très grande plateforme avec plein d'instruments qui mesurent tous les composés de l'atmosphère. Donc l'observatoire est là pour faire des observations. C'est-à-dire qu'on mesure certains paramètres qui vont aller enrichir des bases de données et qui vont servir sur du long terme à regarder l'évolution du climat. Donc l'observatoire, il date de 150 ans. Donc, on n'a pas 150 ans de mesure de tout, hein, parce que les instruments, bah, ils tombent parfois en panne, mais on essaye de faire du mieux qu'on peut pour avoir un maximum de données. Et le laboratoire de recherche, lui, il est là pour utiliser ces données, entre autres, et en faire d'autres aussi, hein, faire d'autres mesures, pour essayer de comprendre ce qui se passe au niveau de l'atmosphère. Donc là, par exemple, je vous ai montré des cartes. Ici, vous avez des mesures de réflectivité. Alors, qu'est-ce que c'est que la réflectivité? C'est une grandeur qui est mesurée par un radar. Quand vous sortirez du bâtiment, vous regarderez en face, sur la gauche, donc il y a l'OPGC, le bâtiment où travaillent la plupart des gens de l'observatoire. Et sur le toit, vous verrez qu'il y a plein d'instruments, dont un gros radar, ça fait une grosse boule blanche comme ça. C'est lui qui a pris ces mesures. Donc, ces mesures de réflectivité, vous allez me dire, moi, je suis bien montée, je ne sais pas ce que ça représente. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On utilise des calculs pour convertir la mesure de l'instrument en une quantité qui a plus de sens, une grandeur qui a plus de sens pour vous. Donc là, par exemple, c'est quoi?
Les millimètres.
Le cumul de précipitations en millimètres. Donc on regarde, vous voyez sur cette carte, tout ce qui est bleu, c'est plutôt des petites gouttes. Plus on va aller dans les couleurs foncées, dans les tons de rouge, plus la goutte va être grosse jusqu'à arriver... Cette couleur-là qui est carmin, ça représente plutôt la grêle. Quand on est dans du rouge qui commence à être bien foncé, ça veut dire qu'il pleut beaucoup pour nous ici. Et plus on monte, plus les précipitations sont intenses et ils vont tendre vers la grêle. Donc ça, c'est un exemple de ce qu'on fait au laboratoire. Et après, on convertit cette mesure-là en une quantité de pluie qui tombe au sol, parce que c'est ce qui nous intéresse, par exemple, pour prévoir, anticiper des inondations, pour prévenir des populations. Donc ça, c'est pas le rôle du CNRS hein, de prévenir les populations, mais toutes ces cartes-là, nous, notre rôle, c'est d'améliorer les modèles pour qu'ils représentent le mieux possible tout ce qui se passe dans l'atmosphère. Donc, moi, je suis ingénieure, donc j'aide les chercheurs. Les chercheurs, ils sont plutôt là pour essayer de trouver les bonnes équations qui vont correspondre à la représentation de l'atmosphère. Et moi, je vais leur amener un support technique. C'est-à-dire que je vais les aider à écrire du programme informatique qui va représenter leurs équations. Je vais les aider à installer les logiciels sur les ordinateurs. On peut pas utiliser des petits ordinateurs comme vous avez l'habitude d'avoir à la maison ou à l'école parce qu'ils sont pas assez puissants pour représenter tous les phénomènes qu'il y a dans l'atmosphère. Donc on utilise ce qu'on appelle des supercalculateurs. Donc il y a 3 grands centres nationaux en France. On demande à aller travailler dessus. Et qu'est-ce que ça nous apporte? C'est que c'est plein d'ordinateurs qui sont interconnectés les uns aux autres et qui amènent une grosse puissance qui nous permet de représenter des grands espaces. Tu vois, tout à l'heure, tu me disais qu'est-ce que ça veut dire méso-échelle sur 1000 km. Qu'est-ce qui va se passer à chaque maille? Alors, une maille, ça va être une petite distance en X, une petite distance en Y et une autre en Z. On va regarder plein de petits cubes et qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de tous ces petits cubes qui représentent toute l'atmosphère. Et c'est ça qui est très coûteux en temps de calcul. Et c'est pour ça qu'on est obligé d'utiliser ces super calculateurs. Donc moi, j'ai fait une école d'ingénieur qui est juste à côté, en face là. qui s'appelle Polytech. Polytech, c'est une école généraliste, mais vous pouvez faire du génie civil, par exemple, vous pouvez faire de la biologie, donc de la modélisation mathématique, de la physique aussi. Donc une école généraliste, ça veut dire que vous pouvez travailler dans tout un tas de domaines. Moi, je vais amener un soutien mathématique, mais les maths, ça sert à tout dans la vie. On peut s'en servir dans la bio, on peut s'en servir en finance, en physique, en mécanique, dans tout un tas de domaines. Donc on peut travailler dans le public, par exemple, là au CRS, mais on peut aussi travailler dans le privé, hein. On peut aller travailler à la bourse, on peut aller travailler n'importe où. Donc c'est assez ouvert, et même si on choisit du privé ou du public, au sein du public, on peut passer d'un laboratoire à un autre. Il faut savoir qu'on peut demander ce qu'on appelle une mutation, un peu. C'est un autre terme, mais c'est ce que ça signifie. S'il y a un poste d'ingénieur calcul scientifique qui s'ouvre dans un laboratoire qui m'intéresse avec une autre thématique, je peux demander à changer de laboratoire à tout moment pour travailler dans un domaine qui est différent, mais toujours en apportant une expertise mathématique. On peut aussi se former. Tout au long de notre carrière, on se forme. Hein. Le CNRS nous finance beaucoup de formations. Soit pour progresser, soit pour acquérir des connaissances qui sont nécessaires au vu de l'évolution. Par exemple, en ce moment, vous entendez forcément parler de l'IA, hein, on n'arrête pas d'entendre parler de ça. Donc l'IA, c'est important, ça va vous permettre aussi de gagner du temps en calcul. Donc là, par exemple, moi, je ne suis pas du tout formée sur l'IA, parce qu'à mon époque, on ne parlait pas d'IA en école d'ingénieur. Donc on peut demander à avoir des formations et puis comme ça, apprendre plein de nouvelles choses tout au long de sa carrière.
Mais du coup, vous avez toujours des cours pour l'IA et l'IA ?
Non, je peux demander, en fait, si je veux faire une formation
c'est
en IA.
C'est pas obligatoire ?
Non, c'est toi qui décides. Après, ton directeur peut te demander de te former sur une particularité. Ça, tu peux l'avoir. Mais moi, je suis assez... En fait, dans mon laboratoire, c'est un petit laboratoire et je suis toute seule à travailler sur le calcul scientifique. Et du coup, c'est plutôt moi qui décide un peu de ce vers quoi je vais m'orienter. Donc si moi, je décide de travailler sur des nouveaux processeurs, ben, je vais demander une formation pour aller apprendre la spécificité du nouveau processeur, tu vois. Souvent, le directeur de l'unité, il n'est pas... lui, il a son domaine de recherche et souvent le vocabulaire dont je te parle là c'est pas le sien, tu vois, il sait pas trop, donc c'est toi qui lui dis bah moi j'aimerais bien me former sur ce domaine là, sauf si lui il a une demande particulière par contre. Alors ça c'est une modélisation à partir d'un de nos modèles du laboratoire d'un nuage. Donc ce que tu vois ici, donc modélisation ça veut dire que c'est une représentation d'un nuage, hein, avec l'ordinateur, avec du numérique. Tout ce que tu vois en jaune en fait c'est la partie qu'on appelle surfondue du nuage. Donc dans le nuage, vous savez ce qu'il y a à l'intérieur du nuage ?
Des gouttes d'eau.
Des gouttes d'eau. Que des gouttes d'eau.
Du gaz ?
Alors il y a des gaz, ouais. Et l'eau, elle peut être sous trois formes. Elle peut être sous forme de gouttes, comme tu m'as dit. Elle peut être sous forme de glace, donc avoir des cristaux. Et puis il y a des zones qu'on appelle surfondues. Ça veut dire que c'est un mélange des deux. Alors, je ne vous ai pas dit, là, moi je travaille sur l'aspect calcul, l'aspect modélisation avec les ordinateurs, mais nous, dans notre laboratoire, on a beaucoup d'instruments de mesure. Il y a des équipes qui développent des instruments. Les instruments sont placés sur les avions, et avec des avions, on va voler à l'intérieur du nuage, et on observe ce qu'il y a dans le nuage. Donc, par exemple, on a des sondes qui comptent les gouttes. Quand on traverse le nuage, on va compter les gouttes, on va regarder la taille des gouttes. Les cristaux, on a plein de photos de tous les cristaux. Vous ne pouvez même pas imaginer toutes les formes de cristaux et les tailles de cristaux qu'il y a dans les nuages. J'aurais dû vous en amener, je le ferai pour la prochaine fois. C'est super joli. On voit toutes formes, on peut trouver des trucs comme ça, des hexagones, des reines des neiges. Là, vous voyez les flocons qu'il y a dans la reine des neiges, là, on peut voir des trucs comme ça. Il y a des formes hyper simples, des petites colonnes aussi. Ça dépend de la température et de l'altitude du nuage. Donc ce que vous avez là, c'est une représentation donc, de la partie surfondue qui est mélangée glace et eau. Et ce que vous avez ici, c'est quoi ?
La glace ?
Alors regarde, non, tu vois la forme ?
Oui.
C'est plutôt en train de faire quoi ça ? Là, c'est le sol. Et là, c'est le haut du nuage.
Ça tombe, enfin, ça
ouais.
C'est
bleu.
C'est,
voilà, c'est la précipitation qui est en train de nous tomber dessus en fait. Hein. Alors les gouttes, il faut savoir que ben elles peuvent être petites, elles peuvent être grosses. On voit ça. Hein. Parfois, vous voyez des grosses gouttes. Il peut y en avoir pas beaucoup, des fois beaucoup. Donc nous, on essaye de comprendre tous ces mécanismes-là. Pourquoi il pleut, pourquoi il pleut pas. Et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur du nuage. On regarde comment le nuage se forme, comment il est transporté, comment il précipite. C'est les trois phases qui sont importantes. Vous savez, des fois, il pleut du sable. Vous avez vu ça?
Oui.
Des gouttes de sable sur votre voiture, tout orange. Vous avez une idée de pourquoi on a ça?
Vous savez, les vents.
Alors, c'est pas le vent. Non, c'est le nuage. Donc, la goutte d'eau, elle se fabrique, elle a besoin d'un petit grain et elle se forme sur le sable du Sahara. Et c'est le sable du Sahara, en fait, ça veut dire que c'est un nuage qui vient d'Afrique du Nord et qui vient jusque-là.